présente On part ciné.
Et bien bonjour dans ce nouvel épisode de Compars Ciné.
Je comprendrai jamais comment tu fais pour avoir l'accent pointu quand tu lances le truc et qu'après tu récupères de suite ton accent normal. C'est ridicule.
On n'a même pas tenu la fête du générique, c'est extraordinaire. On en arrive à un point d'exécration où vraiment. Donc on remercie encore Mathieu Massip et Teddy Trarbach. Pas se suicider, le gars. Mathieu m'a dit comment il fallait le prononcer, j'ai déjà oublié.
Tu peux le répéter?
Teddy Trarbach. Trarbach. Enfin, en tout cas, on les remercie.
Il est allemand.
Non, il n'est pas allemand, non, il vient du Nord. Mais je ne sais plus où exactement. Okay. En tout cas, on les remercie bien fort pour ce fabuleux générique.
Hein. Nîmes. C'est au Nord. Tout est relatif.
Ah là là,
bon. On va rigoler, mal, je le sens. Allez, vas-y, envoie le poussin.
Donc, dans ce nouvel épisode de Compars Ciné, tout d'abord, on va vous rappeler le concept de Compars Ciné. Donc, nous visionnons le film original et son remake et nous déterminons, après un long processus de recherche et d'exégèse cinématographique, lequel des deux est le meilleur.
C'est quoi exégèse ?
Oh, tu as cherché dans le dictionnaire. Je suis aidé en cela par la sémillante Julie.
C'est moi.
Ça va bien, Julie, apparemment.
Non,
ça...
pas du tout.
Ah, bon.
Ça va pas du tout, j'ai jamais été aussi mal.
Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ?
J'ai des aphtas.
Ça, on n'en parle pas à la télé, ça. C'est des maladies
non,
qui
attends,
sont pas...
Non, mais franchement, c'est super douloureux. J'en ai trois en même temps. Mm-hmm. Et je n'ai pas trouvé le remède idéal. Et je laisse un appel à tous nos auditeurs. S'ils connaissent un remède efficace contre les aphtas, qu'ils me l'envoient et ils ne le déposent pas à la poubelle des tuyaux. Mais il nous contacte direct sur Facebook, Quint Prod.
D'accord. Bon, alors, comme vous avez bien pu le constater, donc, chacun a son rôle dans ce podcast. Moi, j'essaye de le faire avec ses coûte que coûte. Je lui dis, mais mets des bâtons dans les roues. Alors, aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de, eh bien, d'une poignée de dollars. Mais d'abord, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas la fameuse séquence ? La séquence de quoi, Julie ?
Je peux me permettre une parenthèse.
Attends, t'as une réflexion à te faire ou quoi ?
Oui.
Attention, attention. C'est le moment d'une réflexion de Julie.
Qu'est-ce que c'est ce jingle ?
Tu m'as demandé une jingle la dernière fois, tu l'as réclamé, je te l'ai fait.
Est-ce que c'est Mathieu et truc France ?
Non, c'est moi ça. Vas-y.
On dirait des bruits de prout.
C'est ce qu'on m'a dit ta fille. Enfin, bref, bon, donc c'est quoi ta réflexion? Déjà, si on me prenait la température, je suis chaud, mais je ne peux plus, j'ai déjà 47 degrés
mais
de température.
On ne peut pas fermer et mettre la clim. Enfin, je...
Si tu
veux. Oh, merci, je vais y aller. D'abord, je dis ma réflexion.
Pardon.
Donc, ma réflexion, c'est que quand on a plusieurs aphtes dans la bouche, ça influence l'élocution. Voilà. Je tiens donc à m'excuser à l'avance auprès de nos auditeurs pour cette élocution et pour cette voix qui est due en plus au fait que j'ai attrapé la crève. Ne mets pas une pause, je vais fermer en 3 secondes, c'est bon.
D'accord. Et c'est reparti. Donc voilà, tu as fait ta petite réflexion. N'hésite pas à m'avertir chaque fois que tu as une réflexion à faire. Ouais, il faut que je le fasse. Hein. Donc tout d'abord, on va passer à notre première séquence, la séquence du
courrier.
La séquence du courrier.
Alors, tu me fais passer le sac, s'il te plaît ?
Oui, tiens.
Ah, merci. Alors, d'après les calculs, on a reçu cette semaine 647 lettres. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire et comment on peut faire pour nous envoyer les lettres, Julie ?
Alors, laissez la lettre à la poubelle du jardin des Tuileries.
Voilà. Alors, n'hésitez pas. Hein. Il y a quelqu'un qui se charge de les ramasser, quelqu'un qui habite à Paris, qu'on connaît, qui nous le donne.
Est-ce qu'il ne faudrait pas renouveler cette blague ?
C'est pas une blague, Julie.
D'accord, il y a vraiment quelqu'un.
Il y a vraiment quelqu'un, d'accord, qui va. Alors, j'ouvre la lettre et voilà. Alors, c'est une lettre qui nous vient de Alain Sop.
Sopalin.
Et ouais.
Ok.
Qui nous écrit et qui nous dit « Je m'inquiète un peu pour Judy, je sens qu'elle a des gros problèmes d'élocution, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle parle avec cette voix-là »
Est-ce que nos auditeurs nous écrivent en simultané par rapport à l'enregistrement du
Je ne sais pas comment ils se débrouillent, Julie, pour...
Alors qu'on n'est même pas en direct.
Je sais, c'est quand même incroyable.
Moi, hein. Bon, je pense avoir déjà répondu à cette question.
Bon, bah écoute, cher...
Mais Alain Sop.
Il a même peut-être déjà la réponse, vu que tu l'as déjà dit. Il était déjà au courant alors que tu n'as même pas parlé de ton problème d'aft qui vient juste d'arriver. Donc écoute, Alain, tu sais déjà tout. Voilà. Donc eh ben voilà, là, c'est la fin du courrier. J'avais pas beaucoup.
C'est tout ?
Ouais, j'avais pas trop.
Sur 647, t'en as pas trouvé une autre.
Ah écoute, hein, les autres lettres, ça revient beaucoup sur le fait que tu arrêtes pas de me couper et d'être désagréable avec moi. On a déjà traité ce sujet lors de précédents comparsinés. Donc je pense que peut-être on pourrait rentrer dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, mais à moitié, on va s'attaquer à deux films pour une poignée de dollars de Sergio Leone, sorti en 1964. Que nous allons comparer à Dernier Recours de Walter Hill, sorti en 1996. Julie, ça fait...
Attends, je me suis trompée.
Ah, purée, mais c'est pas vrai.
1964. Et l'autre ?
1996.
Ça fait donc 32 ans de différence.
Ouh là là, ça me fait. Donc il faut savoir qu'en fait, pour petite précision, pour une poignée de dollars, était déjà lui aussi un remake d'un film d'Akira Kurosawa qui s'appelait Yojimbo, c'est-à-dire le garde du corps, avec Toshiro Mifune, qui lui-même... Voilà, soyons racistes, rigolons des prénoms japonais, hein, allons-y. Donc qui était lui-même adapté d'une nouvelle de Dashiell Hammett.
De qui ?
De Dashiell Hammett. Ça va être dur, ça va être long. Donc Sergio Leone a réalisé son premier western, parce qu'il avait fait d'autres films avant, surtout deux péplums en fait, et il s'est attaqué, et il voulait faire un western, il a trouvé cette idée de scénario avec un scénariste, et ils s'y sont attalés. Alors il faut savoir qu'il y a eu des problèmes de droit, parce qu'en fait ils n'avaient pas vraiment, à l'époque c'était une petite production qui a été produite avec deux bouts de ficelle, quoi, si tu veux, donc ils ont...
Si qui veut.
Donc ils n'avaient pas crédité Akira Kurosawa au générique et donc il y a eu des problèmes de droit, il a fallu un moment avant que le film puisse sortir. Et il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles on regarde les films sont importantes. Et donc nous on l'a regardé sur l'édition Blu-ray qui s'appelle La Trilogie du Dollar. Et alors il y avait un gros problème de synchronisation, les bruits n'étaient pas tout à fait parfaits, vraiment cette édition-là moi, m'a beaucoup déçu. Il faut savoir de toute façon qu'à la base, il y avait des problèmes de doublage. Quoi. Ils n'ont pas pu sortir le film en DVD en Blu-ray pendant longtemps, mais ça a été coincé à cause du son, voilà, du
est-ce
doublage
que,
français.
Avant d'aller au-delà, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé du film, s'il te plaît ?
Eh bien, écoute, bien sûr. Alors, c'est, on va dire, dans les deux cas, c'est un cow-boy ou un gangster, on va dire, parce que dans le deuxième film, c'est Bruce Willis qui joue le rôle de Clint Eastwood, le héros, qui arrive dans un village, et dans ce village-là, il y a deux factions qui s'affrontent, deux gangs qui s'affrontent pour en quelque sorte la possession de la ville ou en tout cas pour être le seul gang restant et le plus fort, quoi. Et cet étranger qui arrive dans cette ville va jouer sur les deux tableaux à la fois, il va se mettre du côté d'une des familles, ensuite il va aller avec l'autre, il va attiser les haines entre les deux familles pour gagner de l'argent sur les deux tableaux, quoi. Et on va s'apercevoir qu'il y a une sorte de petit cheminement, c'est-à-dire qu'à la base, le héros est là principalement pour des raisons pécuniaires, et puis petit à petit, on va voir qu'il va devenir un peu plus moral au fur et à mesure du film, et il va prendre la défense de certains opprimés. Voilà, c'est une sorte de petit cheminement. Même s'il est toujours un petit peu ambigu, quoi. Mais on voit que quand même, il y a une petite amélioration par rapport au début. Par exemple, dans Une poignée de dollars, quand Clint Eastwood arrive dans la première scène, il y a un enfant qui est maltraité. Lui, il est en train de boire à un puits et il n'intervient pas pour défendre l'enfant. Il regarde ça un petit peu de loin. Il y a une fille qui sort, il lorgne sur la fille. Mais il ne s'oppose pas aux deux brutes qui sont en train de maltraiter l'enfant. Tandis que petit à petit, on va voir qu'il va se sentir impliqué dans ce qui arrive aux autres, quoi. Et c'est ce qui se passe aussi plus ou moins dans Dernier Recours avec Bruce Willis.
Voilà. Mais dernier recours, c'est le remake ?
C'est le remake, oui.
Ah, okay.
Alors, petite précision aussi, hein, il y a comment dirais-je, un des membres du podcast qui a décidé de partir avant la fin du
voilà,
film.
Voilà, j'ai décidé de me rebeller, parce que c'est pas sous prétexte...
Rebeller.
Parce que c'est pas sous prétexte qu'on fait un podcast qu'on doit regarder des films qui nous plaisent pas. On
c'est
le fait
boulot,
d'abord et avant tout pour le plaisir. Non, 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 pas du tout pour le plaisir. Alors si le film il me plaît pas, eh ben flûte. Voilà.
Moi, ça fera. Tu vas voir sur Facebook, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux comment les gens ils vont te répondre.
Au final, je viens à ce podcast pour te faire plaisir. Parce que vu que j'ai pas regardé le film, j'ai rien trop à dire sur le film.
Oui, mais tu peux quand même parler de pour une poignée de dollars et tu animeras le podcast par
moi,
tes réparties cinglantes. On en parlera la prochaine fois. Tu vois, voilà. À cause de toi, c'est gâché. Il va falloir que je bippe ce truc où tu prononces le film dont on va parler la prochaine fois.
Ah, zut.
Et voilà. Et hein tu passeras à la quota pour prendre ton chèque. Donc, un des films, Le Dernier Recours, est réalisé par Walter Hill. Walter Hill, c'est quand même un manchot. Il a fait 48 heures. Hein. Enfin, quand même des bons films hein, et tout un tas d'autres films. Double Détente aussi, je ne savais pas que c'était lui. Avec Arnold Schwarzenegger et Bellucci, mais je ne sais plus si c'est James ou si c'est l'autre. Hein, je les confonds tout le temps. Et pour ne pas venir de dollars, bon, c'est Sergio Leone, un classique hein, avec Clint Eastwood. Il faut savoir que c'était pratiquement le tout que Clint Eastwood a joué le tout pour le tout, hein, joué dans ce film. Au début, il ne voulait vraiment pas jouer parce qu'il s'est dit aller en Italie et tout ça. Il s'est dit qu'ils allaient plutôt ruiner sa carrière. Et puis au final, ça, c'est ce qui lui a apporté quand même le succès. Parce qu'au début, il jouait dans une petite
série. Mais le film a été tourné en Espagne, n'est-ce pas ?
Le film a été tourné, alors c'est une coproduction, que je ne dise pas de bêtises.
Il a été fait par des Italiens, mais est-ce que tous les westerns spaghetti, ils ne se tournaient pas en Espagne ?
Si, un peu en Italie aussi, hein. Il y avait quelques plans qui ont été tournés en Italie, les plans en studio aussi étaient tournés en Italie, mais principalement en Espagne, oui. Ah. Voilà. Déjà, on va parler des personnages, de l'interprétation. Alors, d'un côté, on a Clint Eastwood, et de l'autre côté, on va faire en gros, vu que tu n'as pas vu le film, madame, et de l'autre côté, il y a Bruce Willis. Alors, au niveau de l'interprétation, Clint Eastwood...
Ouais, alors j'ai dit à dire un truc.
C'est une réflexion ?
Non, c'est pas une réflexion. Le western avec Clint Eastwood, j'étais quand même volontaire pour le regarder. Au final, je n'ai pas aimé le film et je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, c'est ça ?
Non, si, tu l'as regardé jusqu'au bout, celui-là.
Bon, eh ben, j'en ai aucun souvenir.
Bravo ! Ça promet, dis-moi.
Bon, en tout cas, je n'ai pas aimé le film. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Parce que je trouve que les personnages des deux clans n'étaient pas tellement charismatiques et du coup, on les confondait. Mm. Ce qui, pour moi, créait des problèmes de compréhension du film. Je ne comprenais pas qui était qui, tu vois.
Ouais, mais il y a quand même Gianmarianne Volonté, là, qui joue celui qui tire avec la carabine, tu sais.
Je m'en rappelle plus. Bon. Ouais, et en tout cas, l'autre film avec Bruce Willis, ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est un film qui se passe à l'époque de la Prohibition.
Oui, tout à fait, c'est plutôt des gangsters.
Voilà, il porte le costume de gangster comme ils avaient à l'époque, avec le chapeau, il fume des clopes, il a sa petite bagnole. Et moi, en fait, je ne suis pas vraiment attachée à cette période-là, ça ne me plaît pas trop. Donc, voilà. Bon. Mais j'ai regardé quand même, j'ai fait l'effort pour te faire plaisir de regarder le début du film. Et en fait, c'est l'époque de la mafia aussi. Un peu tous les films, plein de films de mafia de cette époque-là et je déteste, il y a deux choses que je déteste, la mafia et les espions, voilà.
D'accord, non mais parce que là, plus ou moins, on fait un podcast pour parler du film,
ouais.
Pas pour parler de tes
oui
de
mais
tes
je
goûts,
meuble,
etc.
Je meuble, j'ai pas vu le film.
Bon, donc, au niveau de l'interprétation, parce que je reprends, parce que je sais pas si tu m'avais écouté
enchaîne,
plus ou moins.
Enchaîne, oh, t'es long, hein, enchaîne.
Donc... Si on compare Clint Eastwood et Bruce Willis, bon, Clint Eastwood gagne la main déjà. Il faut savoir, il plissait les yeux en fait.
J'adore Clint Eastwood. Il est trop charismatique.
Il plissait les yeux Clint Eastwood parce qu'en fait il y avait beaucoup de soleil. Donc ça fait qu'il a toujours un regard un peu perçant. Mais en fait c'est parce qu'il y avait les projecteurs et le soleil et ça, voilà, c'est ce qui lui forçait à avoir cette expression là sur le visage. Et Bruce Willis, bon,
on lui interdisait de mettre ses lunettes de soleil.
Oui, parce que c'était pas raccord avec l'époque. Tandis que Bruce Willis, là, il en fait des caisses. Quoi. En plus, dans le dernier recours, il y a une voix off qui fait lui-même, qui était insupportable, où vraiment il la joue, mais gangster, mais jusqu'à la caricature. Et il a toujours sa tête avec triste, avec sa bouche en cul de poule. Là. Et vraiment, dans ce film-là,
il vaut pas tripette.
C'est trop exagéré. Quoi. C'est dommage parce que... L'idée était bien. En fait, ce que je reproche surtout au dernier recours, c'est que tu as l'impression que le film ne commence jamais. Tu vois, tu as des scènes, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, le réalisateur, si tu veux, mais tu as toujours l'impression que c'est une scène d'exposition où les enjeux sont expliqués, mais le moment arrive où les enjeux vont être réellement traités, ça n'arrive jamais, quoi. Les scènes s'enfilent les unes après les autres, mais tu n'as pas vraiment de... Tu as l'impression que l'histoire ne commence pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a tout est outré. Alors ça, Walter Hill s'est vachement inspiré de John Woo. Mais alors, dès que Bruce Willis...
John qui?
John Woo. Elle était bonne.
On est polyglotte. Hein.
Ouais. Mais alors, quand Bruce Willis dégaine ses pistolets-là, les gars, ils volent à 15 mètres de... Voilà. C'est trop, quoi. Ils font des cabrioles, c'est...
Des roulades avant et des roulades arrière.
Ah ouais, non, mais vraiment, il y a le premier là, qui se fait descendre, je te jure, Bruce Willis a le temps de se retourner et de commencer à tirer sur d'autres gars qui sont derrière lui, et le gars, il n'a pas fini sa chute, si tu veux. Donc, t'imagines le temps que prend la chute, parce que vu comme c'est découpé, t'as l'impression que le gars, il est suspendu en l'air sous la force de deux petits pistolets de 45 automatiques. Enfin, je m'y connais en armes, mais je ne vais pas non plus exposer ma série, ça. Donc voilà, il est vraiment trop outré. Après, les deux trames sont vraiment similaires. La seule chose qui est un petit peu différente, c'est que dans le film de Walter Hill, il y a deux femmes en plus, voilà, où tu vois que le héros, il est plus sensible au charme féminin et que c'est ceux qui le... pousse à agir d'une meilleure façon, quoi, si tu veux. Et alors, le gros problème vient surtout du traitement du frère un peu cinglé, qui est donc dans Dernier Recours joué par Christopher Walken, et qui est dans Pour une poignée de dollars, c'est Gian Maria Volonté, excusez-moi. Alors, Christopher Walken, tu te dis, quand il va arriver, ça va être chouette, et puis il est vraiment sous-exploité. Bon, c'est Christopher Walken, alors dès que tu le vois arriver, tu te dis, bon, lui, c'est un fou, parce qu'il le porte sur sa tête. Hein. Mais après, il n'y a pas vraiment de moment intense avec lui. Voilà, y a pas, tu t'attends jusqu'à la fin à un final grandiose, et quand le final arrive, vraiment, c'est extrêmement décevant. Tandis que dans Une poignée de dollars, tu as ta séquence à la fin où il y a le fameux duel où ils sont 4 ou 5 et lui, John Marianne Volonté, là, il a sa carabine. Et au début du film, il avait dit oui, entre un combat au pistolet, si un des combattants a un pistolet et l'autre a une Winchester, c'est la Winchester qui gagne. Et il y a la fameuse séquence où en fait Clint Eastwood a mis une plaque en fer là, sous son poncho et l'autre va tirer 15 fois dans la plaque en fer. Alors, moi, ça m'a un petit peu déçu parce que je ne me rappelais pas de comment c'était montré, mais c'est un peu déceptif parce qu'en fait, tu le sais qu'il porte la plaque en fer. Déceptif, c'est ça
décevant,
que tu...
Décevant, tu veux dire.
Déceptif, ça, c'est pareil que décevant, mais ça fait plus classe.
Tu l'avais utilisé la dernière fois et je me suis dit que tu te l'as pété drôlement. Et j'ai cherché le mot d'un dictionnaire parce que franchement, c'est des mots qui ne veulent rien dire.
Non, non, tu cherches un dictionnaire, ça veut dire quelque chose.
Ouais, ok. Ça veut dire autre chose que décevant, quoi.
Enfin bref, mais voilà, en fait il te le montre, Sergio Leone le montre bien avant, donc tu sais ce qu'il va faire, tu sais au moment où l'autre tire que Clint Eastwood ne risque rien, et en plus le gars il s'acharne à tirer 15 fois dans le cœur.
Ouais, parce qu'à l'époque du western il tirait pas dans la tête, s'il y avait eu des zombies à l'époque ils auraient été cuits.
Enfin bref,
ben, c'est vrai.
Ah bah oui, ouais. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est fait exprès, quoi, si tu veux. Parce que s'il lui tire dans la tête, Clint Eastwood meurt, bon, le film est fini,
mais
il finit mal.
Mais même dans les autres westerns, tu vois jamais au western où on tire dans la tête.
Ouais, mais parce que je pense qu'au niveau des effets spéciaux, c'est un peu... Je crois que ça a été fait dans un film de Sam Raimi, Mort ou Vif, avec Sharon Stone, où en fait...
C'est pas un western.
Si, si, c'est un... Ah bon. Ouais, ouais. Sam Raimi, il avait fait un western avec Sharon Stone, et Leonardo DiCaprio, d'ailleurs. Ou à un moment, d'ailleurs, il y a un gars qui se prend une balle à la tête et tu vois, ça, Sam Raimi, il a fait ce plan-là 50 fois.
Ouais, c'est un western récent. Moi, je te parle des westerns de l'époque.
Oui, mais voilà, mais je pense que c'était surtout un problème d'effets spéciaux, quoi. Ouais. Tu vois. Et je pense que dans certains westerns, dans certains westerns, je pense que dans La Horde Sauvage de Peckinpah, tu dois avoir un gars qui prend une balle à la tête et tu vois juste du sang, mais c'est moins... Voilà, vu qu'ils portent des habits, c'est plus intéressant d'avoir une tache sanglante sur un habit, tu comprends ce qui s'est passé, que du sang sur une tête, tu vois que c'est juste du sang qui a été rajouté, quoi. Mmh. Je pense que c'est principalement dû à ça. Voilà, mais cette scène-là, je pense que quand t'es plus jeune, ça passe, pour une poignée de dollars, mais là, voilà, même le film en entier, j'ai trouvé ça un peu longué, quoi. Après, ce qui m'a fait plaisir, c'est que notre fils a dit que la musique, elle était chouette, finalement.
Ah.
que je vais regarder rapidement. Alors voilà, c'est son premier film, Sergio Leone. Alors tout le monde hurle au génie, tout ça. Effectivement, c'est un très bon film, mais on va parler d'autres westerns qui, comme le prochain film qu'on va aborder, je ne dirais pas le nom, moi, mais qui...
C'est celui que j'ai dit tout à l'heure.
C'est celui que tu as dit tout à l'heure, qui vraiment, et je trouve, entre les deux, je préfère celui dont on va parler, je pense, dans le prochain podcast. Oh, arrête ! Ah purée, tu casses les pieds, il va falloir que je monte pendant 3 heures. Arrête, je vais te couper. À partir de là, voilà. Donc,
oh, ça va, on peut rigoler, non?
Non, après je monte ses pieds, c'est pénible. Hein, tu le feras toi le montage.
Mais les gens ils s'en moquent, de toute façon ils nous écoutent pas.
Bon, donc voilà, on a comparé Clint Eastwood et Bruce Willis. Après, au niveau vraiment des deux films. Ouais, la prohibition, moi je trouvais que c'était une bonne idée, surtout qu'il y a des plans qui sont intéressants. Par exemple, quand Bruce Willis arrive avec sa petite voiture, il y a un cheval qui est mort sur le bord, donc symbolique, c'est la mort du western. Maintenant, les héros se baladent plutôt en voiture. Y a...
T'as trouvé ça tout seul?
Oui, en le regardant, ben, tu vois un cheval mort. Voilà.
Ok, voilà. Bravo. Bon.
Et bon, moi aussi, il y a un personnage qui a un pistolet comme de cow-boy, quoi, si tu veux, donc il fait référence un petit peu. Autre référence que j'ai trouvée aussi, c'est Clint Eastwood, en fait, dans le film, plusieurs fois se frotte la barbe. Et en fait, je pense qu'il a piqué ce mouvement au film d'Akira Kurosawa, parce que le héros, plusieurs fois, se frotte le visage avec la main d'une certaine façon, et lui aussi le fait pour une poignée de dollars. Donc ça veut dire que. Ils avaient vu le film avant de faire le remake, quoi. Ce qui n'est pas toujours vrai, hein, parce que des fois, il y a les acteurs ils refusent justement de voir pour ne pas être influencés et tout ça. Donc, voilà, moi j'ai trouvé quand même que pour une poignée de dollars, un petit peu déçu à la revoyure, vraiment un petit peu. Je pense que c'est surtout dû au fait du Blu-ray, là. Il y avait vraiment un gros décalage de son qui était vraiment gênant. Donc, je vous conseille, avant d'acheter, si vous pouvez l'essayer, ce serait mieux. Et dernier recours, ça se laisse regarder, mais ça a vraiment vieilli. Moi, je l'avais vu il y a pas mal de temps, ça, j'avais bien aimé.
Ça se laisse regarder, attends, t'as fait vachement de critiques qui laissaient entendre que ça s'est laissé pas regarder. Mais tu l'as super critiqué tout à l'heure.
Ouais, mais c'est pas infâme, quoi, si tu veux. Voilà, tu tombes dessus à la télé, tu vas le regarder, quoi. Comparé à, je sais pas moi, je préfère regarder ce film-là que Transformers. Voilà.
Ou
par exemple, Armageddon. Armageddon, il se passe rien pendant tout le film, quoi. Ce film, j'y prends aucun plaisir. Si je tombe dessus, il y a vraiment rien d'autre, je vais le regarder. Mais tandis que dans Dernier Recours, tu vois quand même que il y a un petit peu de recherche, quoi. Il y a Bruce Willis, hein, c'est toujours sympa de voir Bruce Willis. Ouais, okay. Parce que et c'est surtout une question de perruque, hein. Parce que dans Armageddon, Bruce Willis, il a une perruque qui ça peut pas passer.
Je me rappelle plus. Bon,
donc voilà, c'est un podcast court parce que madame n'a pas fait son boulot, mais peut-être on pourrait passer à la délibération. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, Jérôme.
Oui.
Il ne peut qu'en rester qu'un, mais lequel?
Qui c'est qui chante derrière?
C'est moi. Donc on va délibérer pour savoir.
Il ne peut qu'en rester qu'un, donc elle. Délibérons. J'hésite.
Or toi déjà t'as pas vu un des deux films en entier et l'autre tu t'en rappelles à moitié. Donc
je me rappelle même à 10%, tu vois.
Donc bon, il y a pas d'hésitation. De toute façon on l'a dit un petit peu avant. Hein. C'est pour nos poignées de dollars qui gagnent. Mais alors vraiment on amène déjà juste pour la musique. Il faut savoir que c'est Ray Cooder là qui a composé la musique du Dernier Recours, qui est pas non plus un main show. Mais franchement, elle est beaucoup moins marquante parce que la musique de Sergio, chaque fois je confonds les deux prénoms, de Ennio Morricone, hein, est vraiment fantastique, quoi. Surtout que tu t'attends pas à ça pour un western. Jusqu'à présent, les westerns, c'était toujours de la musique.
J'ai une question.
Orchestrale, disons. Et si je peux finir mes phrases, si ça te dérange pas. Tandis que là, il y a de la guitare électrique, des chants et tout ça. C'est vraiment la musique est extraordinaire, quoi. Je me fais sur une porte ouverte, même fin. Vas-y, je t'écoute.
Non, c'est pas une réflexion.
Si, t'as dit, c'est une réflexion.
Non, c'est une question, c'est pas une réflexion.
Il faudra que je fasse une jingle pour les questions aussi.
Ça fait deux fois que tu utilises l'expression « c'est pas main show », alors que normalement, tu n'utilises jamais cette expression. Pourquoi, d'un coup, c'est pas cette expression que je n'ai, du reste, jamais entendue?
C'est pas main show, t'as jamais entendu
jamais.
Ça
jamais.
Eh ben, c'est pas manchot, ça veut dire qu'il se débrouille bien, quoi.
Voilà. D'accord. Mais tu sais que quand même, c'est discriminatoire envers les handicapés qui sont réellement manchots. Et qui peut-être, par ailleurs, se débrouillent bien.
Ou envers les habitants de la Manquise aussi.
Ok, super, oui.
Voilà, on sait jamais.
Oui, effectivement.
Ben, je sais pas, j'ai quand même le droit de dire plus ou moins ce que je veux, donc. Hein.
Tu peux, tout à fait, c'était juste une question.
Ah.
Ok, donc toi, tu l'avais déjà entendu.
Oh, ben oui, okay. Si je l'emploie, c'est que j'ai déjà entendu. Okay. Voilà, donc vraiment... Pour une poignée de dollars, il faut le voir, il faut le montrer aux enfants parce que c'est, il a quand même des défauts. Plus ça va aller, plus les films de Sergio Leone vont prendre de l'ampleur, je dirais. Ils vont développer le sujet. Alors, petite parenthèse, la trilogie du dollar, donc c'est pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus. Et en fait, Le Bon, la Brute et le Truand, on a vu les trois. Hein. Petit conseil comme ça, si vous achetez le coffret Blu-ray, faites attention parce que Le Bon, la Brute et le Truand, ils ont remis des scènes qui n'étaient pas à l'époque, hein, et le doublage français est affreux, quoi. Parce que donc les doubleurs de l'époque de sortie de La Bonne, la Brute et le Truand étaient morts, donc là c'est des voix de n'importe comment, ces séquences, c'est, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, parce que ça ne sert en plus pas vraiment l'histoire, hein. Et alors vu comment le doublage
ça
est fait...
Ça ne sert pas du tout le film, même au final le film est trop long, et à la fin tu en auras le bol, alors que ça peut être un bon film s'il est moins long.
Oui, déjà, mais même si tu veux rajouter, moi par exemple, j'avais vu la version longue d'Alien, quand tu aimes le film, tu peux, si t'es en forme, tu vas regarder le film et tu as envie de voir les scènes, quoi, si tu veux. Mais là déjà, bon, moi j'étais pas au courant qu'ils avaient rajouté des scènes, et puis tu mets 4 rondes de plus pour faire un doublage qui vaut à peu près quelque chose, parce que là vraiment, ça te coupe, c'est comme si tout d'un coup, il y avait les pompiers qui débarquaient chez toi pendant que t'étais en train de regarder le film, et tout se passe bien, ils repartent, quoi, si tu veux. Ça te fait vraiment une coupure dans le film, ça te sort du film complètement, quoi. Là, ma petite métaphore sur les pompiers n'était pas terrible, mais enfin,
bon, écoute, tu vois, remarqueras que je ne suis pas intervenu.
C'est vrai, je te remercie. Donc faites bien attention, choisissez bien, regardez sur internet et tout ça, parce que les versions, ça y fait quand même, hein. Mais donc on a regardé ensuite pour quelques dollars de plus avec Lee Van Cleef. Et on a regardé Le Bon, la Brute et le Truand. Alors il faut savoir que ça fait comme une sorte de boucle, parce que dans Le Bon, la Brute et le Truand, il trouve un poncho. Le poncho, il va le mettre à la fin de La Brute et le Truand. Et c'est comme si ce personnage allait se retrouver au début de pour une poignée de dollars.
Il faut savoir que depuis qu'on a vu ce film, donc notre fils de 10 ans se promène avec une carabine et une ceinture en cuir avec un colt. Et il m'a demandé un poncho. Voilà.
Et en fait, à la base, pour une poignée de dollars, on devait voir la séquence où Clint Eastwood trouve le poncho. Tu vois, au tout début du film, c'est dans un scénario...
Mais on l'a vu, le moment où il trouve le poncho.
Ouais, non, mais ça devait se trouver au début de Pour une poignée de dollars, dans ce film-là, quoi, si tu veux. En fait, tu voyais un militaire confédéré au bord d'une rivière arriver, quoi, si tu veux. Il voyait un Mexicain en train de pêcher ou de nager ou un truc comme ça. Il lui fauchait les habits, il mettait le poncho. Et après, tu voyais Clint Eastwood arriver sur son âne au début du film de Pour une poignée de dollars, quoi, si tu veux.
Mais donc, pourquoi tu dis ça? On l'a vu, cette scène.
On l'a vu, cette scène, dans Le Bon, la Brute et le Truand.
Oui.
Voilà. Mais ça, en fait, c'est le troisième film. Oui. Mais dans le premier film, à la base, ça devait déjà y être,
oui,
cette scène.
Oui, mais ça n'y est pas.
Mais ça n'y est pas.
Voilà, okay.
Mais c'était juste pour dire que cette scène-là, il l'avait déjà pensée au début de Pour une poignée de dollars.
Okay.
Et Sergio Leone n'a pas voulu la mettre parce qu'il trouvait ça intéressant de voir un gars arriver comme ça, qui n'est pas mexicain, porter un poncho. Il trouvait que ça donnait une aura de mystère, hein, et il trouvait ça plus intéressant que cette scène ne soit pas dans ce film-là, quoi, si tu veux.
Et d'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi le personnage prend le poncho alors qu'il est super bien sapé. J'ai pas compris pourquoi il prenait ce poncho tout pourri.
Ben, pour boucler la boucle, si tu veux.
Non, mais voilà, moi je te parle pas de la boucle, je te parle du personnage. Et il a aucun intérêt à prendre ce poncho.
Si, pour boucler la boucle.
Ouais, super.
Mais non, mais c'est pour une référence. En plus, ce qui est marrant, c'est que sur les trois films, il y a des acteurs qui reviennent, des acteurs italiens qui reprennent soit un rôle pratiquement pareil, soit un rôle totalement différent. Il y a les mêmes acteurs qui sont à des postes différents, quoi, si tu veux. Donc, c'est pas possible. Ce qu'on voit dans La Bonne, la Brute et le Truand, c'est pas vraiment le début, enfin, ce qui se passe avant Pour une poignée de dollars. Voilà, parce que même pour quelques dollars de plus, il tuerait deux fois le même personnage qui a la même tête et tout ça. Voilà. Mais voilà, je trouve ça vachement intéressant parce que ça a mis en quelque sorte le cerveau en ébullition en te demandant, alors que c'est pas possible, voilà, au final. Voilà, je trouve ça intéressant, moi, de créer une mythologie comme ça qui n'a pas vraiment de sens, mais qui quand même tu arrives à te poser des questions là-dessus. Il faudrait que vous la voyiez. Elle fait une tête, hein. C'est incroyable. Hein. Non mais toi ça te passionne même pas, mais moi je trouvais ça vraiment
pourquoi
super.
Tu dis que ça me passionne même pas.
Non, j'ai dit ça te passionne, ben parce que je vois ta tête. Alors après, ça n'a pas l'air passionné. Aussi, c'est à cause de tes aftes.
Voilà, tout à fait.
Ah, bon. Il faut savoir aussi que petit détail, parce que vu qu'on en est où, on en est à 30 minutes avec les diverses coupes que je vais faire, on peut parler un peu plus librement pour ce podcast-là. Ce ne sera pas vraiment comparsiné officiel, mais enfin. Si vous allez à Almeria, ou en tout cas dans les régions d'Espagne, vous pourrez trouver des sites sur Internet. Ils ont reconstruit le cimetière qui a servi à Le Bon, la Brute et le Truand, le cimetière circulaire. C'est une association qui a retrouvé l'emplacement.
Par hasard.
Non, ils le cherchaient. Ils le cherchaient le cimetière. Je crois même que c'est des touristes qui l'ont cherché, qui l'ont trouvé en premier. Et puis les habitants du village se sont dit « on va le restaurer ». Et maintenant, la restauration est finie. Pendant quelques temps, on pouvait acheter sur Internet une tombe et avoir une tombe à son nom.
Si je puis me permettre de faire juste une petite description. En fait, c'est une place ronde très grande. Et tout autour, c'est des pierres tombales qui sont placées de manière circulaire. Et c'est immense, c'est très très grand. Mmh. Et je crois qu'au moment du tournage du film... Ils ont construit ça exprès pour le film. Ils ont trouvé un lieu, ils ont construit ça, ils ont fait le tournage et ils se sont barrés, ils ont tout laissé comme ça.
Ah, mais c'est, de toute façon, tout était comme ça, quoi. Chaque fois, ils construisaient un village et tout ça.
Ils repartaient.
Ils repartaient, mais ils ne détruisaient pas les lieux de tournage, quoi. Alors, c'est marrant, sur Internet, on peut, si vous tapez lieu de tournage et le nom du film, vous avez beaucoup de touristes qui ont pris, qui ont fait des photomontages où on voit la scène de l'époque, hein, où on les voit eux. Au même endroit, je ne sais pas combien d'années ça fait depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Et on voit les lieux qui ont changé. Chaque fois, il y a
ça
des.
Ça fait 55 ans.
Voilà, 55 ans. Après, comment est devenu le lieu, quoi, si tu veux. C'est sympa parce qu'il y a des choses qui ont vraiment totalement changé. Et puis, tu as le petit détail, un petit Porsche, un petit truc. Et tu te dis, oh, ça fait bizarre, quoi. Je l'ai regardé avec un autre fils tout à l'heure. Il me dit, ah ben c'est dommage que ce ne soit pas resté comme c'était avant et tout ça. J'ai dit, ben oui, mais bon, il y a des autoroutes qui ont été construites. Les villages, ils ont utilisé certains bâtiments, ils ont construit des extensions, quoi, on va dire. Mais voilà, mais il y a certaines choses, par contre, qui n'ont pas du tout bougé. Il y a des montagnes, des paysages de montagnes et tout ça. Vraiment, ça n'a pas énormément changé. Mais voilà, si vous allez en Espagne, n'hésitez pas à faire un détour. Je pense même qu'ils ont construit une sorte de réplique de village de Western. Je ne sais plus exactement dans quelle région, mais ça peut être sympa pour... voilà. Moi, non, je dois avouer que je vais y aller.
Il doit exister, ou il devrait exister, une sorte de route des westerns là-bas. Un circuit touristique ou quoi? Non, franchement, ça n'existe pas.
Il y a un petit périple. Je pense que maintenant, tu dois trouver des guides, ou même sur Internet, tu dois faire une liste. Mais les Espagnols, tu sais comment ils sont, quoi.
Ouais.
C'est un peu raciste, ce que
non,
je dis.
Non, mais bon, c'est vrai que...
Voilà, ils n'ont pas eu conscience, ou en tout cas ils l'ont eu très tardivement, de ce qu'ils pouvaient faire de cette mythologie-là, quoi, si tu veux. Il y a plein de choses qui ont été détruites, voilà, parce que pour eux, allez, surtout que...
Oui, non, mais je pense qu'il y a des choses aussi qui deviennent cultes bien après le fait qu'ils soient tournés.
Tout à fait, parce que pour deux paniers de dollars...
Peut-être pour eux, à l'époque, c'était un gros navet, comme nous, les sites comme aujourd'hui, de se dire, vivement qu'ils se soient barrés, ceux-là, et puis...
Si tu me laisses en place une, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Au début de la sortie du film, ça n'a pas du tout marché. Et puis, ça a marché un petit peu en Italie. Ça a mis très longtemps à marcher aux États-Unis. Surtout qu'il y avait un problème, le fameux problème de droit. Mais même en France, il y avait plein de critiques de cinéma qui disaient que c'était un cinéma nul, ringard, grossier. Voilà, parce qu'il faut... C'est le début du western où les cow-boys sentent pas très bon, quoi, si tu veux. Voilà. Ils sont mal là. C'est pas John Wayne qui arrive avec son beau costume, qui vient de chevaucher pendant 4 heures, qui au final arrive avec son foulard bleu, sa veste verte, son truc andin tout propre. Ouais. Là, voilà, quoi. C'est toujours des trucs un peu de briquet de broc, quoi. Mais donc, n'hésitez pas à aller sur Internet. Or, il y avait même... ça, je l'ai recherché pendant une heure. Je n'ai pas retrouvé la référence. Si jamais quelqu'un l'avait, eh bien, il peut mettre une lettre dans le jardin des Tuileries, dans la poubelle du jardin des Tuileries. C'est un scientifique qui s'intéresse aux villes, ou en tout cas aux mythologies du cinéma, si tu veux, et qui étudie ça, si tu veux. Voilà. Il s'intéresse aux villes imaginaires. Voilà. Il étudie ce truc-là. J'avais lu un de ses textes qui était vachement intéressant. Voilà, là encore, c'est dommage que ce soit pas en vidéo parce qu'avant, il me regarde avec
des... C'est très intéressant ce que tu dis.
C'est ça, ouais.
Non, mais si, c'est vrai, je le pense. Et j'aimerais bien lire ce livre.
C'est vrai, je t'attends.
Mais oui, c'est sincère.
J'ai l'impression que tu l'es. J'ai l'impression que
mais
tu
oui,
me manipules.
Oui, je le suis.
Bon, enfin, tant mieux. Donc, écoute. Voilà, on n'a pas vraiment fait un comparsiné classique parce que madame, on n'a pas voulu regarder le film en entier.
Non, mais attends, toi, de toute façon, tu n'en as jamais des aftes. Tu sais pas ce que c'est.
C'est vrai. Oui, tu étais handicapé, on va dire.
Tout à fait.
Donc, voilà, si, n'hésitez pas. Il faut le, de toute façon, même si pour une poignée de dollars, c'est vrai que ça a un petit peu vieilli. Il faut quand même le dire. C'est
non,
pas...
mais Clint Eastwood est un acteur absolument fantastique, grand charisme, grand acteur. Voilà, il mérite absolument d'être vu dans n'importe quel film dans lequel il joue.
Et sûrement... Moi, en plus, il y a Gian Maria Volonté qui est vraiment... voilà, il donne vraiment une force à son rôle et tout ça. Toi, ça t'a pas trop marqué, mais moi, je sais que voilà, ce gars-là qui joue aussi dans quelques dollars de plus, mais vraiment, c'est vraiment un super acteur. Il y a vraiment des scènes marquantes. Quoi. Tu vois, il n'y a aucun acteur qui est nul. Quoi. Il y a pris l'histoire, ça, le rythme est un petit peu lent. Ça, voilà, il se passe. C'était le début de toute façon de Sergio Leone, mais juste pour la musique, les acteurs, vous passerez pas un mauvais moment. Quoi. Ça, c'est certain. Et comme je vous dis, c'est considéré comme un chef-d'œuvre par certains. Ça a un petit peu vieilli. Moi, je pense que Le Bon, la Brute et le Truand est nettement mieux que celui-là, mais enfin.
Et faisons découvrir le western aux enfants.
Surtout, oui. Oui, parce que là, quand même, ça fait partie des classiques. Hein. Et les enfants, ils vont adorer. Hein. Je veux dire,
oui, bien sûr.
Ça va vraiment les marquer.
Le problème, c'est qu'il faudra leur acheter un Colt, une carabine, et ça pourrait un bon choix.
Voilà, bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ces mots.
Tout à fait.
Julie, je te remercie d'avoir fait à moitié ton travail, mais d'avoir été là quand même.
Mais oui, je suis là.
On se retrouve pour un prochain comparsiné très bientôt. Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site PodCloud, comparsiné le podcast.fr.
Combien avons-nous de followers ?
Alors, des followers, on n'en a pas beaucoup, mais des abonnés, je crois qu'on est à 40. Et okay. Alors, on va se bouger les fesses. Je vous avais parlé d'un autre podcast qui devait sortir. Et puis, finalement, j'ai pas le temps de faire le montage. On est un peu pris par le temps. Et bientôt, un nouvel épisode de Pourquoi Forest, parce que je me suis aperçu que ça marchait vachement bien.
Non, mais attends, Pourquoi Forest, on en a tourné un seul.
Et on a 110 abonnés. Ouais. C'est là le...
Il faut que tu trouves des gens interviewés.
Ouais, on va émater d'ailleurs. Hein. On va se débrouiller. Commence à avoir du succès, il faut en profiter.
Okay.
Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. C'est pas le meilleur épisode qu'on ait fait quand même. Hein.
Attends, je vais aller mettre le pyramex.
Le début, tu m'arrêtes quand même. Hein. C'était marrant au début.
Ouais, de toute façon, moi je viens là que pour ça.
Tu viens que pour la rigolade.
Ouais, oui.
L'analyse en profondeur scientifique, ça te l'air intéressant.
Je te laisse dire des trucs. On va goûter ?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?
Disons que moi, avec mes arts, je peux pas trop me liser. Mais...
Il a fait du pain perdu, l'autre, ou quoi ?
Ouais, ça m'étonnerait.